des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, comment allez-vous? Clotilde Seille en votre compagnie pour vous présenter une nouvelle fois cette émission des livres plein les oreilles. Une émission en deux temps, je vous dirais que la première partie sera beaucoup consacrée à l'histoire et la seconde partie sera beaucoup consacrée, 21 décembre oblige, à Noël. Nous allons vous proposer quelques livres, des livres très différents, des livres jeunesse, des livres très intelligents, des livres très romancés, bref, tout ce qu'on peut peut-être mettre sous un sapin de Noël si vous n'avez pas encore fait vos courses. Et bien sûr, ce sont des livres qui seront disponibles en version audio via Caeb, SQLA et tous ces endroits où vous pouvez vous les procurer. Alors aujourd'hui, en première partie, je vais m'entretenir avec Huguette Roussel qui nous parle de l'amour au temps d'une guerre, de Louise Tremblay des Siambres. Nous resterons dans l'histoire, mais on va remonter un peu le temps. Et on parlera d'une autre guerre, celle que se sont menées les tuques bleues et les tuques rouges, avec notre ami Jean-Claude Germain, qui est déjà en studio. Bonjour, monsieur Bonjour. Germain. Et puis, je vous le disais en seconde partie, il sera question de Noël avec une jeune bénévole qui enregistre des livres jeunesse. Et puis, il y a mes camarades du Canal M qui m'ont fait des suggestions de livres à offrir. Bref, Noël, 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 quand tu nous tiens. Bonjour Huguette.
Bonjour Clotilde.
Il me semble que ça fait une éternité qu'on ne s'était pas parlé et je me suis dit...
Deux siècles et demi.
Ah, et demi. Et écoutez, il me semblait aussi. Huguette, vous connaissez, vous savez ce que j'en pense souvent à cette émission des livres plein les oreilles. Il y a des hasards qui arrivent sans que je les provoque. Et aujourd'hui, le hasard est que vous nous parlez d'histoire grâce à une série de Madame Tremblay des Siambres. Et juste après vous, Monsieur Germain va également nous parler d'histoire à une autre époque et dans un autre contexte, un autre pays, puisqu'on sera de ce côté-ci de l'Atlantique. Quoique, quelquefois, on va se perdre un petit peu. On s'épivarde un petit peu en Europe.
En gros, aux États-Unis aussi.
Oui, aussi, également. Alors, Huguette, je vous laisse nous présenter cette série de Madame Tremblay des Siambres.
Alors, cette dame a fait beaucoup de recherches. C'est même écrit au début du livre. Mm-hmm. Parce qu'elle ne connaissait pas l'époque dont elle parle, 39-45. Elle a fait au moins presque un an de recherche, je pense, pour nous livrer un beau roman. C'est, mm-hmm. C'est dur, par contre, parce qu'on sait qu'on s'entend bien que c'est la guerre, les Juifs, oui. Les Allemands et tout et tout. Mm-hmm. Et ça commence à que c'est Jacob et Bertha, c'est un couple qui habitait à Berlin. Lui est un dentiste, ils ont quitté Berlin pour Paris. Oui. Et là, ça commence là, la guerre, bon, les Allemands, ça arrive à Paris.
Mm-hmm. C'est l'occupation allemande.
Là, avec, oui, il s'occupe des Juifs, n'est-ce pas? Mm. Il y a une personne...
Pas juste à Paris, d'ailleurs.
Non.
Il a là.
Le livre commence là, mais...
Non, c'est ça.
Finalement, on rencontre toutes sortes de gens qui gravitent autour de cette guerre avec les Allemands, mm-hmm. avec tout ce monde-là. Mm-hmm. Il y a la résistance qui s'installe, mm-hmm. avec Brigitte, qui est vraiment impliquée, avec le père d'une de ses amies, François.
Oui. Les femmes ont été très importantes pendant la guerre, en tout cas dans le clan de la résistance. Les femmes ont été très, très, très actives pendant que les maris étaient souvent soit au front, soit au travail obligatoire. Les femmes étaient vraiment, très, très utilisées et très solidaires, oui.
Ben, heureusement qu'elles étaient solidaires, parce que sinon, je ne sais pas qu'est-ce qui serait arrivé. Parce que c'est les hommes étant pas là, c'est les femmes qui tenaient mm-hmm. fort en tout point, là, en tout point. Oui. Ils gagnaient leur vie, ils travaillaient, ils élevaient leurs enfants seuls. Donc oui. C'est assez, mais c'est très bien raconté, c'est vulgarisé.
Oui.
Il y a beaucoup de recherches, mais on les voit là. Mm. Mais ça se passe aussi à Québec, au Québec.
Ah oui.
Parce qu'il y a les suivis des les héritiers du fleuve, il y a des personnages qu'on voit. qui étaient dans les héritiers du fleuve, qui sont encore dans le tome, dans le livre suivant, dans
L'amour au temps d'une guerre.
L'amour au temps d'une guerre. Donc, c'est eux autres, on les voit au Québec, mais ils sont loin de la guerre. Cependant, le fils d'un des personnages va aller en guerre. Il va être en France et il va aussi s'occuper de la résistance. C'est un pilote d'avion, André, qui s'appelle. Donc, André s'en va à Paris. Il y habite justement dans la maison de celui qui fait la résistance. Donc, ça se coordonne bien. C'est ça, on voit... Le lien se faisait là, parce que quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, pourquoi on parle de Célestin et de Gilberte qui sont dans les héritiers du fleuve. Et à la fois, on s'en va à Paris. Là, je ne comprenais pas. Mais au fil de l'intrigue, on voit que André et Raymond, les fils d'un des personnages qui habite tout près dans le Charlevoix, et justement à Paris. Les deux sont là, un en Angleterre et l'autre à Paris.
J'ai l'impression, en vous écoutant, Huguette, que c'est un... Vous savez, il y a encore plein de gens, et notamment dans la jeune génération ici au Québec. Bon, nous, on est nés dedans. Hein. Moi, je suis une enfant de l'après-guerre. Quand je dis qu'on est nés dedans, je ne suis pas née dans la guerre. Mais lorsque je suis née, je pense qu'il ne se passait pas un repas sans qu'il soit question de la résistance, de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation, des Allemands qui marchaient sur un trottoir alors que les Français marchaient sur l'autre, etc., etc. Bon, donc, moi, c'est une époque que je connais bien et j'ai lu abondamment sur la Seconde Guerre mondiale. Je suis littéralement passionnée par ça. Mais j'ai l'impression qu'en vous écoutant, ce qui est formidable, c'est que c'est peut-être un très bon premier livre pour des gens qui n'auraient peut-être pas encore lu sur la Seconde Guerre mondiale. Je pense à des jeunes qui tout d'un coup, oui, apprendraient, je pense, entendraient parler peut-être de la résistance comme ils n'en ont jamais entendu parler, ou de l'occupation allemande, ou de ces Québécois qui sont allés donner parfois leur vie de l'autre côté aussi pendant la guerre. Est-ce que je me trompe?
Non, pas vraiment. Ça serait... Je voudrais que c'est un premier livre. Bon, c'est sûr que moi aussi, j'avais lu des choses, mais j'avais pas vécu, là. Je suis arrivée plus tard, disons. J'avais pas vécu la guerre, mais ça serait un premier livre, oui, parce que, bon, on apprend la persécution des personnages qui, bon, Jacob et Berton ont été persécutés, tu sais, oui. On voit ça. C'est très bien illustré, c'est très bien écrit, c'est
non,
très
c'est
dur.
Ça. La résistance, la chasse aux Juifs, tout y est, quoi. L'occupation allemande, quand on baigne là-dedans, on baigne dans la Seconde Guerre mondiale, telle que l'Europe l'a connue, pas seulement la France, hein, évidemment.
Non, c'est l'Europe complète. Mais non, ça vaut la peine d'être lu. C'est sûr qu'on réagit, hein, parce que on entend les atrocités, puis tout le monde y passe, là. Au Québec, là, parce que les autres, ils se demandent si la guerre existe vraiment, parce qu'ici, c'est loin, ils vivent pas, sauf ceux qui sont partis.
Ça, c'est sûr qu'au Québec, on est un petit peu protégés, hein, par tout ça. Voilà, exactement. On est... Non, c'est sûr, mais... Huguette, c'est combien de livres? Deux livres? Trois livres?
Trois livres.
Trois livres, la série. D'accord.
Oui, c'est divisé en trois, comme 1939, 42, 42, 45, et ensuite la fin de... Après-guerre. Il y a un tome après-guerre.
D'accord. Vous savez, si le sujet vous intéresse, c'est rare que je fasse une espèce de publicité comme ça, mais je trouve que ça a été tellement bien fait. Il y a eu, peut-être que Jean-Claude Germain, vous la connaissez, il y a eu en France une série qui a été faite, qui s'appelait « Un village français ». Et vraiment, il y avait six années, ça a duré six saisons, parce que la première saison, c'était 1939, jusqu'en 1945, donc jusqu'à la libération. Et tout ce qui a suivi, parce que ça ne s'est pas arrêté là, hein, après. Hein. Alors, si un jour vous avez l'occasion, j'imagine que ça existe peut-être en DVD avec vidéo description, je ne sais pas, mais il faudrait s'informer. Je sais que quand ça passait sur TV5, il y avait vidéo description, et ça va repasser, parce que ça repasse régulièrement. Si vous avez aimé cette série de Madame Tremblay-Desciambre, ne manquez pas ça. Un village français, parce que tout ce dont Madame Tremblay-Desciambre semble parler dans son livre et que vous avez évoqué, c'est là, mais à hauteur d'homme, parce que c'est dans un petit village français. Mais c'est pareil, ils ont vécu la persécution, ils ont vécu la chasse aux Juifs, ils ont vécu la résistance. Hein. C'est dans le maquis, beaucoup français, hein, que la résistance, là, c'est dans la France qui était non occupée, parce que c'est pas toute la France qui était occupée. Quoi. Alors, donc, je vous recommande ça. Un village français, c'est vraiment très, très bon. Bon, puis il y a des histoires d'amour là-dedans aussi, puis ça fait partie de la vie.
Dans le livre aussi, on en a. Là.
Ben oui, oh, ben, oui. Ben, là, ben oui, mais qu'est-ce qu'on ferait sans amour, Huguette?
Hein? On serait mort.
Oui, absolument, absolument. Huguette Roussel, merci beaucoup d'être venue témoigner de la lecture de cette série de Madame Louise Tremblay-Décembre, L'amour au temps d'une guerre. On se retrouve en 2018.
Certainement.
Allez, alors joyeuses fêtes.
Joyeuses fêtes à vous.
Au revoir. Les premiers mots que je vais avoir envers vous, monsieur Germain, je voudrais être bien sûr que je m'exprime bien et qu'ils ne sont en aucune manière un jugement que je pourrais porter à Madame Tremblay-Décembre. Mais avec Madame Tremblay-Décembre, on évoque des grands points.
Mais la fonction de la littérature populaire,
voilà.
Effectivement, c'est de recréer des mondes.
Voilà.
Bon, on n'est pas dans des études politiques et rien de ce genre-là. Puis ça varie selon le point de vue, comme en France, il y a eu le point de vue aussi le bombeur, qui était une autre affaire.
Oui,
aussi.
Mais
alors,
oui.
Parce qu'il y a la collaboration également qui fait partie.
Exactement.
Alors donc, mais la question que c'est que c'est le rôle actuellement au niveau historique au Québec a été rempli par les romans historiques.
Mm-hmm.
Puis, habituellement, la recherche est assez bien faite, ce qui fait qu'à ce moment-là, on fait revivre des époques, mais à travers un œil, disons, qui est plus populaire.
Exactement.
Et ça, c'est essentiel.
Mais vous fouillez un petit peu plus les choses. Hein.
Oui, mais ce n'est pas la même vision, mais
vraiment.
En même temps aussi, c'est-à-dire c'est qu'il faut s'accrocher à des choses qui sont pas des thèmes, juste des trucs politiques, mais c'est incarné dans des personnages.
Exactement.
Puis, ici, on en a des très intéressants.
On en a des très intéressants. Et je vous remercie de me tendre ça, de me tendre cette perche. Je vais tout de suite vous poser une question, Monsieur Germain. On va faire semblant que je ne vous l'ai pas posé hors d'onde. C'est tellement fouillé, travaillé. C'est le troisième tome de « Nous étions le Nouveau Monde » que vous nous présentez aujourd'hui. Le feuilleton du ciel rouge et de l'enfer bleu.
Non, la raison de ce truc-là, c'est parce qu'actuellement,
oui.
je me suis rendu compte, voyez-vous, les curés, on parlait à l'époque du ciel bleu et de l'enfer rouge.
Oui, oui, oui.
La question qu'il y a, c'est que les curés parlaient toujours de l'enfer.
Mais oui.
Puis les seuls qui rêvaient un ciel, c'était les rouges.
C'était les rouges. D'où ce titre-là. Et monsieur Germain, c'est vous allez accepter hein, de revenir au mois de peut-être janvier ou février 2018. J'aimerais beaucoup faire cette entrevue en deux parties.
Ben, je sais,
tellement il y a du stock et encore, je ne suis pas sûr qu'on passe évidemment à travers de tout. Et je vous en remercie beaucoup. Les personnages, moi, je me suis dit, comment on va faire? Parce que c'est un siècle hein, que vous nous rapportez.
Ben, non, pas tout à fait
un siècle, mais...
C'est vraiment un demi-siècle.
Un demi-siècle, oui.
Parce que finalement, là-dedans, je veux dire, le moment important, l'après les événements de 1937-1938, je veux dire, c'est à ce moment-là, lorsqu'on crée une nouvelle formule de gouvernement qui va créer, soi-disant, le Canada uni, mais en même temps, toutes ces composantes par rapport au Québec, parce que quand même, il ne faut pas oublier que la rébellion, mais c'était juste une rébellion politique, pacifique. Parce que là, on va revenir en arrière, mais c'est parce qu'on... Moi, pour moi, la rébellion, c'est une répression. Tant que vous faites une rébellion, vous attaquez.
Ouais.
Quand l'armée vient puis vous attaque,
c'est une répression.
Une répression.
Absolument.
Alors donc, cette répression-là a été très difficile. Elle était populaire parce que il y a eu un référendum en 1840, quelque chose, là, un petit peu avant 1834. Il y a un référendum où le peuple endosse toutes les demandes qu'on fait, une liste d'épiceries dont plusieurs on a encore des problèmes avec aujourd'hui. Alors, c'est un mouvement qui était appuyé de façon légale. Je veux dire, c'est pas une jacquerie. Alors, donc, la question qu'il y a, c'est que tout le restant du siècle, au fond, et dans la suite de ça, puisque c'est qui se produit,
voilà.
Il y a des gens qui ont vécu les deux.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, d'ailleurs, je remarque une chose qui me fait beaucoup sourire. Vous parlez de 34, 35, 40, comme moi je le dis, mais dans les années 1900. Quoi. Alors là, je précise bien que nous sommes en 1834.
Tous les ans, sans le savoir... Vous fêtez un... Parce que la fête de la Saint-Jean-Baptiste, ce n'est pas une fête religieuse, c'est une fête politique. En 1834, ils ont fait un banquet politique, oui. justement, qui va lancer toute l'aventure d'essayer d'obtenir de Londres, tout simplement, moi, je vais vous expliquer ça, c'est assez simple. Tout le monde pense que les Anglais nous ont donné la démocratie. Pas toutes! Ils ont donné le parlementarisme. Ça n'a rien à voir. Vous avez un parlement à la Britannique en bas, puis en bas, vous avez un conseil législatif qui est nommé et qui s'arrange pour pouvoir s'ils font pas de niaiserie. Mm-hmm. Alors, nous autres, on s'est dit, mais écoutez, si on est majoritaire, on devrait avoir un parti. Si c'est nous, on devrait pouvoir voter des budgets. Ils ont dit, non, ça, on s'arrange avec ça. Alors, donc, ouais. toutes ces demandes-là, étaient déjà là, mais elles ont été niées.
Oui,
alors
oui,
donc, oui. le siècle, la partie d'au siècle commence à ce moment-là.
Alors, les Bleus, loyalistes, des
oui,
gens...
Oui, ben, les loyalistes, c'est pas un terme qu'on peut mettre avec les Québécois, parce que les loyalistes, c'est ceux qui, ce sont les Anglais qui viennent des États-Unis, prétextant qu'ils ont été, je veux dire, vraiment...
Mais d'abord, vous savez qu'il y a des fois où j'étais un petit peu mélangée, moi, quand même, parce que, bon, je connais un petit peu moins aussi cette histoire-là, c'est pour ça, d'ailleurs, que ça... Mais il y avait des fois où je me disais, attends, lui, c'est un bleu ou c'est un rouge?
Ah, ben, la question, c'est que, soyons honnêtes, c'est que, fondamentalement, vous avez les Bleus, à ce moment-là, sont associés à l'Église.
Point.
Parce que une chose qui est importante de comprendre, c'est que jusqu'en 1840, parce que voyez-vous, les gens ont des notions historiques qui viennent à travers le temps, qui ont été expliquées, et l'Église a fait fort de montrer qu'elle était là depuis le début.
Oui,
ce qui est vrai dans les faits, dans le sens qu'il y avait des missionnaires, mais il n'y a pas une occupation aussi forte du territoire, il n'y a pas une présence aussi forte de l'Église.
Oui.
Mais en plus, au moment où on a justement la conquête, mais à ce moment-là, l'Église n'est pas reconnue. Ils sont anglicans.
Ouais,
ils ne peuvent absolument pas reconnaître ça parce que ces gens-là relèvent de Rome. Bon, alors là, puis même à ce moment-là, il y a le serment du test. Vous ne pouvez pas travailler pour le gouvernement si vous ne faites pas un serment du test qui renie l'Église catholique. Hein? Alors bon, mais à un moment donné, justement, l'ordre de Rome s'est rendu compte que c'était une erreur, ce truc-là. Donc, fondamentalement, en 1840, à cause que l'Église était bien gentille pour excommunier des patriotes, mais à ce moment-là, on la reconnaît officiellement.
Ouais.
Alors donc, elle devient un interlocuteur important par rapport à l'occupant. Alors, tout change.
Et alors, il y a une tuque bleue... qui est Monseigneur Bourget.
Ah ben là, c'est plus la tube bleue. Là,
là c'est plus
une
que ça.
Bleue.
Là, qui écrit, alors là, je vous cite Jean-Claude Germain en page 32. Monseigneur Bourget voit encore plus grand. Il caresse le projet de façonner une nation qu'il veut d'abord catholique, puis canadienne et finalement monarchiste. Dès le mois de mai 1841, il se rend à Paris pour mener une campagne de recrutement auprès de diverses congrégations religieuses françaises qui partagent ses idées. La réponse est immédiate et favorable.
Mais, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, en France, les forces intéressantes sont des forces qui sont issues de la Révolution française et que la Révolution française a fait un mauvais traitement aux curés. Et les curés qu'il rencontre sont des monarchistes. Alors, donc, il fait venir ces gens-là. Alors, c'est eux qui ont enseigné, mais ont enseigné à l'élite, là, ils n'ont pas enseigné au peuple. Ils ont enseigné à l'élite. Alors, donc, c'est ces gens-là qui viennent. Puis d'ailleurs, ça faisait l'affaire des... D'ailleurs, à un moment donné, c'est intéressant, parce qu'en Angleterre, il y avait un paquet de curés qui avaient fui la France. Ils étaient en Angleterre. Puis, je veux dire, les Anglais étaient parfaitement d'accord pour les envoyer ici.
Parce qu'ils
étaient d'une pensée royaliste. Alors, donc, on se retrouve là, puis on est pris avec une église ultramontaine, c'est-à-dire c'est ultra-catholique qui relève de Rome. Alors, donc, Monseigneur Bourget, qui a excommunié les patriotes? Les patriotes, puis leurs enfants et tout, là. Bon. Alors, à ce moment-là, je veux dire, lui, il se met à prendre de la place. Puis, il va vraiment prendre beaucoup, beaucoup de place. Puis, en même temps, je ne sais pas si vous voulez m'en parler, mais la question qu'il y a, c'est qu'il y a, à un moment donné, il y a un preacher français. Hein? Monseigneur Forbin Janson. Mais c'est une vedette, là. Puis il prêche en France. D'ailleurs, il avait été commandé. Le pape lui avait donné une commande de catholiciser la France. Alors, non, mais c'est
rien
vrai.
Rien que ça.
Il y avait le problème.
Ouais, ouais.
Alors, la question, puis il est un preacher, comme on parle des preachers, qui est capable de soulever les foules, puis tout ça.
Ouais.
Fait que tant qu'il le rencontre là-bas, tout à coup, lui était devenu l'évêque de New York, parce qu'en France, il ne voulait plus le voir, là, parce qu'il était, enfin, l'un des gens qui s'est réjoui mal. Alors, il était à New York, puis là, tout à coup, je veux dire, il vient ici.
Ouais.
Et là, ils sont. Puis en même temps, à partir du moment où politiquement, on n'est plus tout à fait, on ne sait pas ce qu'on se retrouve, il y a un genre de flou dans la population. Puis des fois, dans ces moments-là, on se retourne vers les valeurs supérieures. Et à ce moment-là, je dis, il vient ici pour faire une campagne. Une campagne extraordinaire. Ça, là, puis là, c'est le pardon et tout ça. Puis les gens se confessent, puis tout ça. Puis ça change tout à ce moment-là. Mais il faut savoir une chose qui est assez intéressante. Ça correspond en même... Parce que nous, on est en Amérique du Nord, là. Oui. On n'est pas en France.
Non.
Je suis en Amérique du Nord. En même temps, ce qu'on appelle le second réveil, tous les preachers comme on connaît aujourd'hui,
oui.
Il y a des preachers qui traversent les États-Unis. Il y a un mouvement similaire.
Oui.
Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que très souvent, on fait des choses, puis on les fait en même temps que les États-Unis. On est sur le même continent, mais pas nécessairement de la même façon.
Mm.
Alors, même en même temps, lorsque vous avez le mouvement de revendication violent qui devient, je veux dire, dans le temps d'octobre, mais vous avez aussi la revendication des Noirs aux États-Unis.
Oui.
Il y a un genre de fond. Alors, curieusement, ça... Tout à coup, le Québec se convertit grâce à un Français qui prêche comme un Américain.
J'adore vous entendre parler de tout ça. Quand je vous dis qu'il fallait qu'il revienne deux fois, à mon avis, ça va être trois. Enfin bon, n'anticipons pas. Alors, du côté des Rouges.
Mais, la question qu'il y a, c'est qu'on se pose toujours la question, est-ce que tout était... Bon, parce que, évidemment, Papineau s'est exilé. Il avait mis sa tête à prix, là. Bon, je dis quand même. Ouais. Fait qu'il allait en France. Puis, lui, il est resté en France un bon bout de temps. Alors, donc, on a toujours eu l'impression qu'il n'y avait rien qui se passait avant. Comme il y a eu un mouvement, entre autres, Mgr Bourgette a fait beaucoup de choses pour éliminer ce mouvement-là, pour le tuer, pour l'étrangler.
Dans l'œuf, oui, absolument.
Dans l'œuf. Bon, pas dans l'œuf, là, qui était vivant. Là.
Oui.
Et la question qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, on a l'impression qu'il n'y avait rien après les patriotes. Au contraire, vous avez à ce moment-là l'apparition des Rouges.
Voilà.
Mais là, des Rouges à l'européenne.
Oui. Oui.
Pas des Rouges, parce que là, c'est toute l'histoire du 19e siècle. À un moment donné, les Rouges vont être transformés par Laurier, qui va les transformer, lui, en des Rouges avec une teinte bleue.
Mais eux, ce
sont ces Rouges-là. Ces Rouges-là, ils ont des préoccupations, entre autres, je veux dire, d'avoir de l'enseignement laïque. Tout un tas de préoccupations qui viennent longtemps après. Alors, mais c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas beaucoup de grande presse, parce qu'on a... On a réussi à éteindre leur présence, alors qu'ils sont extrêmement importants.
Les grandes figures chez les Rouges, à ce moment-là...
Ben, c'est les frères Dorion, d'abord.
C'est les frères Dorion.
Dorion, le plus jeune, parce qu'il est en même temps
le
aussi...
Petit, hein, le petit Nabot, mais il prend de la place, le petit Dorion.
Puis en même temps, ils ont créé une institution, l'Institut canadien.
Alors, c'est ça.
Ça, ça
m'a fasciné.
C'est majeur.
Ça, c'est majeur, ça.
Parce que fondamentalement, ils réclament des choses très, très simples.
Des
livres, d'abord.
La culture.
Puis la culture. Puis ensuite de ça, ils se rendaient bien compte que les gens, eux-mêmes, se rendaient compte qu'il manquait d'éducation. Alors, je parle même ceux qui avaient suivi des cours classiques, parce que dans les cours classiques, marquez bien que moi, j'ai suivi un cours classique, puis je peux rencontrer Molière, puis on a suivi le même cours. Bon, c'est pas compliqué. Puis je dis, le problème qu'il y a, c'est qu'on était peut-être un peu en dehors de notre siècle, mais en tout cas, parce que vous savez, le cours classique, puis tout ça, il avait suivi les mêmes ordres qu'avant.
Bien
on a commencé par étudier l'Antiquité, puis on s'est rendu un jour, puis en littérature, on a eu l'avènement de Nelligan, puis on a arrêté là. Alors, puis c'est un collège bien coté. Alors, donc, à ce moment-là, je veux dire, là, il y a des préoccupations. En même temps, les Rouges, à ce moment-là, sont en Europe. Ils sont aussi un peu partout, parce que là, on s'en va tranquillement vers 1848 en France. Il y a un mouvement européen important. Ils sont partout, dans tous les pays, ils sont importants. Et là, c'est des revendications, justement, au fond, je veux dire, d'avoir des gouvernements démocratiques. Ensuite de ça, d'avoir aussi, je veux dire, l'éducation, parce qu'ils se sont dit, il n'y a rien à faire s'il n'y a pas d'éducation.
Dorion, à un moment donné, là je le cite, nous croyons que, parce que vous le citez évidemment dans votre livre, Jean-Claude Germain, nous croyons que la nationalité doit unir tous ses membres. Nous croyons que la nationalité sera la bannière sous laquelle nous marcherons, nous en sommes convaincus. Ceux qui connaissent le caractère canadien certifieront, en considérant le caractère de cette nationalité, que toute liberté trouvera chez elle l'hospitalité cordiale, franche et sincère que le voyageur et l'étranger ont toujours trouvé en ses foyers. C'est marrant, c'est quelque chose que on entend dire continuellement ici au Québec.
Mais il y a une chose
qui
dit la question, c'est que là, on se dit qu'on a un problème d'identité.
Mais oui, c'est ça.
On n'a jamais eu l'ombre d'un soupçon de problème.
Voilà, nous voudrions jouir du gouvernement responsable sans l'union. Bref, sous cette forme de gouvernement, et encore moins dans une confédération, la coïncidence, dites-vous, vous, peuple-nation, demeure impossible, c'est ça.
Non, c'est mais la... même dans la déclaration d'indépendance qui était faite en 1838, on reconnaissait le statut de citoyen aux Indiens. Alors donc, comme je dis, l'identité à ce moment-là est d'une clarté absolue. Je veux dire, c'est une identité culturelle. Et tous les voyageurs qui viennent, tout le temps, je veux dire, la décrivent parfaitement. Alors, tant que les gens disent qu'on a un problème, non, c'est pas ça. On a un problème d'identité culturelle par la suite. Oui. On a un problème très souvent aussi avec l'identité qui est essentiellement catholique.
Alors que
c'est lié à... Et en même temps aussi, on a éliminé de notre histoire les coureurs de bois.
Absolument.
Qui sont importants. Alors donc, mais on a oublié aussi les revendications.
Oui.
Les revendications simples, parce que curieusement, lorsqu'on a eu le parlementarisme, tout à coup ici, il y a des gens qui immédiatement sont devenus des gens qui comprenaient ce système-là et qui ont combattu le système par le système lui-même.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, mais là, on arrive plus loin. Oui. Alors, on arrive en disant, il y a un problème avec le système.
Oui.
Ce parlementarisme à deux étages, parce qu'en notre affaire, c'est pas mieux, là.
Non, absolument. Je comprends.
Il y a une chambre basse qui est là, puis c'est le fun
un
peu.
Oui, c'est clair, c'est clair.
Mais ce qui est important, c'est ce qui fait la chambre des lords.
Oui, absolument. Jean-Claude Germain, il y a ce qui rend aussi formidable ce livre, c'est qu'il est terriblement vivant, incarné par des histoires. Bon, par exemple, je pense à ce duel entre Dorian et Doutre, qui est absolument ridicule, qui est du grand guignol, c'est du grand n'importe quoi, on dirait Bourville et Louis Funès.
La question qu'il y a, c'est qu'on a oublié une chose, c'est qu'ils sont pas dans... Ils ne sont pas dans un cocon non plus, parce que quand même, les journaux viennent, ils lisent.
Voilà.
Fait que là, il y a une partie d'eux qui rêvent, comme ce qui se passe dans un roman français à ce moment-là. Je veux dire, il y a un côté, le duel et tout ce genre de choses.
C'est
des romantiques aussi.
Bien sûr.
Alors, cet élément-là...
Ah oui, il la joue Alexandre Dumas,
oui,
tout ça.
Oui, en même temps, ils doivent combattre dans une autre forme. Alors, ce qui arrive aussi, c'est que on parle toujours de l'ordre de Rame, parce qu'il est majeur, il est important. Mais la question qu'il y a, c'est que l'ordre de Rame a dit une chose. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le modèle qu'il a créé pour ici est celui qui était appliqué partout dans l'Empire, dans toutes les colonies. Il part d'un principe, il y a eu une erreur avant que vous avez faite. L'erreur que vous avez faite, c'est que vous n'avez pas donné une possibilité, je veux dire, aux Canadiens, je veux dire, de pouvoir participer au gouvernement ayant des postes.
Exactement.
En fait, le patronage.
Oui.
Puis à un moment donné, lorsque Hippolyte Lafontaine du Canada uni, il s'est dit, enfin, on a le patronage, parce qu'oubliez pas que tous ces gens-là, c'est des avocats, des médecins.
Oui.
Alors, ils ont besoin de trouver des postes. Alors donc, vous trouvez un moyen que, bon, la ferveur peut être importante, mais tout à coup, le fait d'avoir un peu de revenus, ça peut aider.
D'ailleurs, nous allons parler de cette façon très qu'ont les avocats de parler, notamment lorsqu'ils vont constituer cette confédération. À un moment donné, vous avez une page absolument succulente sur la façon dont ils le disent, une façon justement proche des avocats. Jean-Claude Germain, on a 10 secondes pour se dire au revoir, mais je vous retrouve.
On se retrouve.
Dans quelques semaines et on poursuit la conversation.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Jean-Claude Germain. Merci. Des livres plein les oreilles. Seconde partie. Et on y est. Bah, ou presque. Hein? C'est quoi? C'est après-demain, après-après-demain. Alors, on va en parler beaucoup de Noël. Et on va d'abord commencer avec mon amie Christelle Quintin. Comment ça va, Christelle?
Bonjour, ça va très bien. Et toi, Clotilde?
Très, très bien. Toujours ce... Très joli sourire.
Oh, c'est
Christelle, apprécié par tout le monde ici, vraiment, parce que Christelle est une jeune bénévole. Et quand je dis jeune bénévole, c'est vrai que nous avons souvent des gens, c'est pas un secret pour personne, qui sont à la retraite, qui tout ça, qui ont du temps. Et nous avons rarement des jeunes dynamiques, comme toi, Christelle.
Ben oui, mais je suis à la retraite aussi. Mais non.
Alors, Christelle, aujourd'hui, on se dit tu, ma petite cocotte. Je t'ai demandé, entre autres, de venir nous parler au moins d'un livre de Noël significatif et qu'on connaîtrait moins que tous les contes de Noël que nous connaissons.
Absolument.
Et en plus, c'en est un que tu as lu, ça.
J'ai lu et que j'ai adoré. Oui, c'est un conte comme tous les autres, mais en fait, celui-ci, il est sérieusement extraordinaire. Quand on regarde le livre, là, si on regarde à l'arrière, ce qui est super, c'est que l'auteur, ou plutôt la traductrice, a pris la peine d'écrire que c'était pour les enfants de 9 à 99 ans.
Oh.
Et ça, ça me fait rire.
Oui, mais absolument. Ça... Alors, il s'appelle comment, ce bouquin?
Un garçon nommé Noël.
De?
Matt Haig. Matt Haig, exactement.
H-A-I-G, voilà.
Qui est un livre qui a été traduit, en fait.
Oui, c'est ça, exactement. Mais vraiment, voilà. Un livre jeunesse. Mais un livre jeunesse, d'ailleurs, comme ça avait été écrit dans le journal The Guardian... Vraiment un bonheur pour tout le monde.
Absolument. En fait. Sérieusement, j'ai trouvé énormément mm-hmm. de plaisir à lire ce livre-là. Mm-hmm. Bon, à chaque semaine, j'avais hâte d'apprendre la suite. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un livre de Noël, évidemment un conte de Noël, un conte un peu comme tous les autres contes, mais celui-ci est en même temps une histoire d'action.
OK.
Et ça, c'est...
Qui raconte quoi, alors?
C'est l'histoire de... la véritable histoire de Noël, du Père Noël. Et là, on part de sa tendre enfance, alors qu'il vivait avec son papa chéri.
Mm-hmm.
Et c'est très intéressant parce qu'on est plongé vraiment dans une histoire, dans un contenu presque, je pourrais dire, socio-historique, sérieusement.
Mm-hmm.
On parle pas seulement du pôle Nord at large, je veux dire,
général, bien sûr, oui.
Mais plutôt d'un endroit spécifique.
Uh-huh. Qui est où?
Attention, puis là, on a un petit cours. Quand on lit le livre,
okay.
On a un petit cours de prononciation.
Okay.
Alors, c'est à Kristiinankaupunki.
Oh! et ça se situe où, ça?
C'est en Finlande.
Ben oui.
Là où il y a presque pas d'habitants, là. Un ou deux ou huit.
Okay.
Ça, quand on lit le livre, là, c'est on prend plaisir à ridiculiser, en fait,
oui.
Puis à dire qu'à quel
oui.
point il y a,
oui.
il y a très peu d'habitants. Ah. Et on part à la recherche du royaume du Père Noël. On mm-hmm. part à la recherche des lutins. Tout ça dans un but d'avoir de la richesse. Parce mm. que, oui... Le vrai Père Noël est né avec son papa, qui est un bûcheron, dans la pauvreté. Et ils veulent se sortir de la pauvreté. Et pour avoir un peu de richesse, il décide, son père, de partir à la recherche des lutins. Et c'est là que l'aventure commence. Parce que pendant que son père est en expédition avec les autres hommes qui représentent le roi, lui... Il se retrouve coincé avec sa vilaine tante. Et... On rencontre toutes sortes de personnages qui sont très sérieusement attachants. Ah oh oui, on a
mais ce sont des personnages fantastiques
oui,
ou
mais...
ce sont des personnages...
On a... Le premier personnage qui entre dans l'histoire, c'est Mika, la petite
oui.
souris,
oui.
Qui va devenir le meilleur allié de Nicolas. Et ensuite, ben, on va avoir un ours, on va avoir un renne, évidemment.
Oui.
Et là, on a cinq ou six lutins qui entrent en ligne de compte à un moment donné dans l'histoire. Et c'est vraiment... c'est intéressant parce que jusqu'à la toute dernière seconde, on ne sait pas si on va arriver à trouver le Père Noël, le Pôle Nord et Lutinbourg, donc le royaume des lutins.
Oh, très mignon! Oh, que ça donne envie en plus! Alors, imaginez cette voix que vous entendez, c'est celle que vous entendez lire le livre. Alors, c'est vraiment... Parce qu'évidemment, si on vous en parle, c'est que c'est un livre qui est disponible en sonore. Donc, si vous avez peut-être un jeune enfant qui a des difficultés perceptuelles ou qui a des difficultés de lecture, d'apprentissage de lecture, pourquoi ne pas aller chercher ce livre-là, disponible maintenant. On va rappeler le titre, chère Christelle.
Oui, alors c'est « Un garçon nommé Noël
mm-hmm. ». De Matt Haig, H-A-I-G. Et puis, vous m'avez dit, en ce moment, j'en ai lu un là, il est génial. On sort de Noël, mais par
oui.
contre, c'est un beau cadeau à faire.
Oui, absolument. Puis, de toute façon, ben, il n'y a comme pas de bon moment pour
non,
lire ce
vrai,
genre de
c'est
livre-là.
Vrai. Alors, c'est lequel?
C'est « L'asile ».
Oh
est
boy
un... Oui, une histoire d'horreur, en fait.
Ah ouais?
Horreur, suspense,
oui.
Qui est en fait l'histoire de trois personnages,
mm-hmm.
trois jeunes adolescents qui, durant l'été, se rencontrent dans une espèce de séminaire où ils vont échanger, non seulement des moments extraordinaire entre amis. Uh-huh. Ils vont apprendre à se découvrir, ils vont créer certaines amitiés et même peut-être plus.
OK, s'il y a affinité.
S'il y a affinité. Mais ils vont aussi, en fait, le séminaire se donne dans un ancien hôpital psychiatrique qui se nomme Brooklyn. Et il y a des espèces de choses étranges qui se passent durant la nuit.
Uh-huh.
Donc, ces trois personnages extraordinaires, là, on parle de Dan Crawford, on parle de Abby et de Jordan, qui vont s'aventurer dans les sous-sols interdits de l'asile.
Mmh.
Et
ils
vont découvrir des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de découvrir, en fait. Mais je vais être honnête avec toi, Clotilde.
Oui.
Ce livre-là, jusqu'à aux trois quarts du livre, je pensais connaître la fin.
Ah!
Tu sais, de ces genres de livres que tu fais, je vois puis, déjà tout ce qui arrive.
Voilà. Et puis pas du tout.
Aucunement.
Tu
Aucunement. Je me suis trompée sur toute la ligne. Je croyais sincèrement avoir tout vu.
C'est un livre jeunesse, qui peut intéresser les adultes aussi.
De toute évidence.
De toute évidence.
Oui, absolument.
Mais bien, merci beaucoup, Christelle. Quand même, elle est charmante, imaginez-vous. Écoutez un livre lu par Christelle, c'est un vrai bonheur. Christelle Quintin, qui nous a présenté L'asile de Madeleine Roux, l'avait-on dit, Madeleine Roux, R-O-U-X, et Un garçon nommé Noël de Matt Haig, H-A-I-G. Joyeuse fête.
Joyeuse fête aussi.
Merci d'être venue.
Merci à vous.
Retour sur la première partie avec, comme je le fais à chaque semaine, un extrait du livre « Nous étions le Nouveau Monde » de l'ami Jean-Claude Germain qui est venu nous le présenter en première partie. Et malheureusement, on n'a pas pu parler d'un personnage assez fantastique qui est le personnage d'Honoré Mercier. Et c'est avec ce personnage que son livre finit. Et laissez-moi vous lire... quelques extraits d'un discours qu'il a donné. Nous sommes en 1843, le 4 avril, à Montréal. L'ancien premier ministre qui a livré son testament politique dans un discours fleuve à la grande salle du parc Sommer. Et dès son entrée en scène, l'auditoire s'est levé spontanément pour l'acclamer. Ému par l'accueil, Honoré Mercier affiche un large sourire. « À ce que je vois, confie-t-il aux 6000 personnes qui l'applaudissent, à tout rompre, j'ai encore des amis. » L'orateur a dû résumer sa conférence en gros caractères sur des feuillets, mais il n'a absolument rien perdu de sa fougue, de sa pertinence et de sa force de persuasion. « L'Angleterre me laisse indifférent, » dit Honoré Mercier. « Presque froid, j'admets qu'elle nous a fait du bien. » Mais je crois qu'elle nous a fait plus de mal que de bien. Si nous avons prospéré, nous, surtout les Canadiens français, ce n'est pas de sa faute. Nous avons contribué pour beaucoup à la fortune de ses marchands et nous avons toujours payé généreusement les gouverneurs qu'elle nous a envoyés. Tout compte tiré, nous ne devons rien à l'Angleterre. Il dit également encore, M. Mercier, qui n'a plus d'ailleurs à consulter ses notes, mais qui n'a qu'à laisser parler sa vie. Ça, c'est une petite note de Jean-Claude Germain. Il dit « Vous n'êtes qu'une colonie ignorée du monde. » C'est ce qu'il dit aux 6000 personnes qui sont venues l'applaudir. « Une colonie ignorée du monde entier. Je vous offre de devenir un grand peuple reconnu et respecté parmi les nations libres. Hommes, femmes et enfants, à vous de choisir. Vous pouvez rester esclave dans l'état de colonie ou devenir indépendant et libre. » au milieu des autres peuples qui vous convient au banquet des nations. L'instant est magique. Un court temps de silence précède l'explosion. Vive Mercier, vive le Canada, vive l'indépendance, clame-t-on de toutes parts. Et sur scène, Mercier était aussi grand que l'était Papineau. Il sourit sans joie. Ce n'est pas à lui qu'on apprendra que les foules ont la mémoire courte et que la route de l'indépendance sera longue. Le Canada n'osera jamais réclamer la sienne. C'est le Royaume-Uni qui, avec le statut de Westminster en 1931, prendra l'initiative de reconnaître la souveraineté de tous les dominions de l'Empire britannique. Et celle-là, c'est la toute fin du livre de M. Germain qui écrit au moment de fêter le 150e anniversaire de la Confédération. Le monarchisme institutionnel canadien nous rappelle son statut immature de perpétuel Tanguy de l'Angleterre. Pour la nation québécoise, l'indépendance est un cœur infrangible où l'autonomie bat à droite et la souveraineté à gauche. Honoré Mercier avait raison. Seul un parti national peut contrer l'arythmie constitutive du Canada en coordonnant celle du Québec. Cessons nos luttes fratricides, unissons-nous, disait Honoré Mercier. Le futur n'aura son propre avenir qu'au prix d'un ralliement pour l'indépendance nationale, de conclure Jean-Claude Germain. Alors, retour sur Noël avec une rubrique des livres à offrir à Noël. J'ai demandé à quelques camarades de Canal M ou autres chroniqueurs réguliers de nous présenter des livres parmi ceux peut-être qu'ils aimeraient recevoir ou, dans le cas d'Anne-Laure Janson, qui est près de moi, dans de livres qu'ils voudraient offrir. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Clotilde.
Anne-Laure, vous nous arrivez avec un livre que certains auditeurs connaissent peut-être bien parce qu'on avait reçu l'auteur.
Exactement.
Présentez-nous ça.
Juliana Léveillé-Trudel, une jeune auteure de 32 ans qui a écrit son premier roman qui s'intitule Nirlit,
ouais,
paru aux éditions La Peuplade fin 2015. Donc, on l'avait reçu à votre émission littéraire. Une jeune femme très en nature entière,
oui,
qui a été en fait pendant plusieurs années travaillé dans des camps d'été, animer des ateliers culturels ouais, dans le Grand Nord québécois ouais, et Nunavik. Elle raconte le Grand Nord de l'intérieur, de la ouais, façon dont elle l'a vécu. C'est vraiment un poème sur son expérience ouais, là-bas, auprès de jeunes, ses amitiés qu'elle a tissées au fil des années. C'est ouais, aussi un dialogue intérieur, finalement, ouais, parce ouais, que quand ouais, elle retourne à Montréal, elle est toujours un petit peu là-bas, puis elle se demande comment les gens
ouais,
vont, ouais, si, ouais, quand ouais, elle va revenir, certains...
Elle est très imprégnée, hein,
imprégnée
de ce qu'elle vit à ce moment-là.
De ces paysages magnifiques, oui, de cette toundra, de cette rudesse et cette beauté.
Voilà, exactement, vous avez raison, de cette rudesse et de cette beauté. Ouais. Vous me l'enlevez un petit peu de la bouche parce que je me souviens que c'est exactement ce que je lui avais dit. Je lui avais dit, c'est fou, cette poésie où se marie ce qu'il y a de plus beau avec ce qu'il
exact,
y a de plus laid.
Ouais.
Et alors, elle l'écrit.
Ah, c'est très touchant. Moi, je me souviens avoir pleuré.
Moi aussi.
Et ouais, ça se lit vite, c'est 180
ouais,
pages.
Ouais.
Et ça donne une image du Grand Nord. On est obligé d'adhérer comme elle et d'aimer ses habitants et d'avoir envie de beaucoup mieux pour eux.
Merci Anne-Laure Janson de nous avoir remis en mémoire Nirlit, hein, ça s'écrit N-I-R-L-2-I-T et ça veut dire en langue Nunavut, ça veut dire les oies qui émigrent,
okay,
donc ça veut dire oiseaux migrateurs, mais plus précisément les oies, et c'est pour ça qu'elle il l'appelait comme ça,
mm-hmm,
et c'est pour ça qu'elle a appelé son livre Nirlit, parce qu'elle ne restait pas là-bas, okay, elle faisait des allers-retours entre Montréal et ce pays de froidure.
Ouais.
Merci Anne-Laure Janson.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. J'ai demandé à l'ami Gérald Cousineau aussi de nous faire quelques propositions. Alors, il m'est arrivé avec plusieurs titres. Celui-ci, tiens, « Une histoire du monde sans sortir de chez moi ». C'est sorti en 2014. C'est quand même une assez grosse brique, 601 pages, donc ça doit représenter un bon 15 heures de lecture facile, hein, certainement. C'est de Bill Bryson, B-R-Y-S-O-N. Je vous lis le petit résumé qu'il m'a envoyé. Ayant découvert que ce qui s'était passé dans le monde depuis deux siècles s'était retrouvé sous forme d'objets et de rituels quotidiens dans notre intérieur, le plus drôle des écrivains voyageurs américains fait le tour de sa maison, qui est un ancien presbytère anglais, pour nous raconter cette grande aventure du génie humain, de l'invention de la tapette à souris à la conception de la tour Eiffel, de la saga des acariens à celle des milliardaires. Alors, c'est une histoire de l'envers du décor racontée par Bill Bryson, une histoire du monde sans sortir de chez moi. aussi autour d'Eva, de Louis Hamelin. Après avoir vécu 10 ans à Montréal, Eva revient s'installer dans sa ville natale à Mal-d'Aurore, en Abitibi, plus précisément dans le chalet de son père, au bord du lac Kaganoma, voilà, K-A-G-A-N-O-M-A. Et ce qu'elle vient y chercher, Eva, eh bien, le silence et la paix. Mais il s'avère que ce silence et cette paix sont quelquefois des denrées rares. Très beau livre de Louis Hamelin, intitulé « Autour d'Eva ». Il avait aussi envie de nous proposer Gérald Cousineau, la fiancée du facteur de Denis Thériault. D'origine bavaroise, on parle de Tania Schtroumpf, Tania Schtroumpf, 23 ans, qui est venue à Montréal pour y faire des études universitaires et perfectionner son français et rejoindre un garçon qu'elle a rencontré sur Internet. Mais ce dernier la déçoit alors que la ville lui plaît, alors elle décide de s'y installer. Et pour gagner sa vie, elle travaille comme serveuse dans un restaurant sans prétention qui s'appelle le Madelino, qui est situé à Saint-Janvier-des-Âmes, un quartier populaire de Montréal. Et là, elle va faire la connaissance de Bilodeau, B-I-L-O-D-O, un facteur timide, féru de calligraphie et auteur de haïku, dont elle tombe amoureuse. Et un jour d'orage, leur vie bascule et leur destin s'entremêle dans un mouvement qui les emportera vers un ailleurs où rien n'est plus vraiment ce qu'il paraissait être. La fiancée du facteur. C'est un tout petit livre, vraiment ça se lit comme un charme, et c'est signé Denis Thériault. Joyeux suicide et bonne année, ça je me souviens, il était venu nous en parler de ce livre-là, qui est également une petite plaquette signée Sophie de Villenoisy. Ça s'écrit comme ça se prononce, V-I-L-E-N-O-I-S-Y. La narratrice s'appelle Sylvie Chabert, elle a 45 ans, elle est mal dans sa peau, elle est en pleine dépression après le décès de son père. Elle cherche à se remettre en question et pour cela, elle décide de se suicider à Noël, c'est-à-dire dans 2 mois. Dans le livre, évidemment. Alors, elle se met dans des situations que son psy lui conseille pour la faire sortir de son mal-être. Et elle, qui était renfermée, seule, triste, eh bien, elle se désinhibe complètement de ce qui l'enfermait dans le carcan de son éducation. Et on rit beaucoup, nous dit Gérald Cousineau, car c'est raconté avec naturel et humour. Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy. Il y a aussi Hélène Denis. Vous savez, Hélène est celle qui vous accompagne le matin, qui vous fait la lecture des journaux, mais aussi des paractualités tous les midis. Hélène, je lui ai également demandé ce qu'elle aimerait recevoir pour Noël. Alors, elle m'a répondu ceci. « Quant à moi, j'aimerais recevoir le roman miniaturiste de la Britannique Jessie Burton, une jeune auteure, dont l'écriture est comparée à celle de Jane Austen et de Margaret Atwood. Un petit résumé, nous sommes avec Nella Hortman, qui n'a que 18 ans, en ce jour d'automne 1686, où elle quitte son petit village pour rejoindre à Amsterdam son mari, Johannes Brandt. Homme d'âge mûr, il est un des marchands les plus en vue de la ville. Il vit dans une opulente demeure au bord du canal, entouré de ses serviteurs et de sa sœur, Marine, une femme restée célibataire, qui accueille Nella avec une extrême froideur. En guise de cadeau de mariage, Johannes offre à son épouse une maison de poupées représentant leur propre intérieur, que la jeune fille entreprend d'animer grâce au talent d'un miniaturiste. Les fascinantes créations de l'artisan permettent à Nella de lever peu à peu le voile sur les mystères de la maison des Brandt, faisant tomber les masques de ceux qui l'habitent et mettant au jour de dangereux secrets. C'est un livre fantastique et je remercie beaucoup Hélène Denis de nous l'avoir proposé. Évidemment, est-il important, utile, de vous rappeler que tous les livres dont je vous parle sont disponibles en version audio au SQLA. « Et puis Hélène aussi nous disait, moi personnellement, je vous recommande aussi toute l'œuvre d'Éric Plamondon. D'Éric Plamondon au SQLA, nous avons 1984, les trois tomes. Nous avons aussi Takawan, un seul tome, de cet auteur, Éric Plamondon. Et puis Louise Vien, qui a longtemps été notre directrice ici à Canalet, et que je salue, nous propose toute la lumière que nous ne pouvons voir d'Anthony Doerr, ou Dor, D-O-E-2-R. Elle nous a dit que c'est un livre qu'on lui avait offert au printemps, au mois d'avril, et que depuis, elle ne cessait de l'offrir à d'autres. Rapidement, toute la lumière que nous ne pouvons voir, je vous rappelle, c'est le titre, possède la puissance et le souffle des chefs-d'œuvre et nous entraîne du Paris de l'occupation à l'effervescence de la libération dans le sillage de deux héros, Marie-Laure, une jeune aveugle, réfugiée avec son père à Saint-Malo, et Werner, un orphelin génie des transmissions électromagnétiques. Il s'agit d'une réflexion profonde, nous dit notre amie Louise Vien, sur le destin et la condition humaine. Je vous redonne le titre de ce livre, « Toute la lumière que nous ne pouvons voir » d'Anthony Doerr. Ça s'écrit D-O-E-R-R. Puis, puisque c'est Noël, eh bien, parlons-en de quelques livres de Noël disponibles depuis tout récemment au SQLA. Il y a notamment de P.D. James, Les 12 indices de Noël et autres récits, dont Yannick Marcoux, dans Le Devoir, disait le 24 septembre 2016, « Les romans policiers de Phyllis Dorothy James, donc P.D. James, ont marqué la seconde portion du XXe siècle. Elle est décédée en 2014 à l'âge de 94 ans. Mais voici que paraissent à titre posthume quatre de ses nouvelles campées dans la retenue de la bourgeoisie anglaise où se côtoient meurtres et suicides. James a une plume qui sait faire dans l'économie. Ses formules nous accrochent parfois un sourire, d'autres font réfléchir, mais sa plus grande force demeure sa capacité à définir ses personnages en quelques mots. Sa petite bouche mesquine et ses yeux foncés, par exemple, et méfiants, donnaient à penser que son esprit était aussi étroitement corseté que son buste. » Ça, c'est du P.D. James. « La nouvelle semble néanmoins un genre trop bref pour que la prolifique auteure puisse s'épanouir. Au moment du dénouement de l'enquête, le sang de la victime est encore trop frais et le suspense n'a pas eu le temps de prendre son envol. Ses nouvelles n'ont rien de remarquable, errent parfois dans des clichés, écrivait Monsieur Marcoux dans les livres, mais elles se lisent, dans Le Devoir, pardon, mais elles se lisent néanmoins avec un grand plaisir. Alors après tout, le crime parfait n'existe pas. Un autre livre que je vous recommande, il est de Bernard Tirsiaux, T-I-R-T-I-A-U-X. Nous sommes en juin 1914, après une année universitaire à Bruxelles. Carla, fille unique d'une famille berlinoise, aisée, s'apprête à rentrer chez elle sans avouer à sa famille qu'elle est enceinte. Et pendant le voyage, elle accouche prématurément et confie sa fille, Louise, aux fermiers vallons qui l'ont sauvée. La guerre éclate et Louise est élevée avec les autres enfants des fermiers, dont le petit Noël, de 4 ans son aîné, qui deviendra son protecteur. Et lorsque 8 ans plus tard, Carla revient chercher Louise, Noël n'aura de cesse de retrouver celle qu'il aime comme une sœur et plus encore. Noël deviendra photographe et puis pilote en 1930. Une nouvelle fois, le souffle de la guerre va bouleverser leur destin et Louise et sa famille vont disparaître dans les camps. C'est un roman, un beau roman, qui parcourt 30 années d'absence et de passion racontée par Noël comme une longue lettre adressée à Louise qu'il espère toujours retrouver. Noël en décembre, de l'auteur belge Bernard Tirsiaux, T-I-R-T-I-A-U-X. Ça, c'est un livre qui a été écrit en 1950, mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est au USQLA, « Un Noël de Maigret » de Georges Simenon. Un matin de Noël, le commissaire Maigret reçoit à son domicile la visite de deux de ses voisines du boulevard Richard Lenoir, Mademoiselle Doncoeur, une vieille fille, et Madame Martin. La petite fille, Colette, fille de cette dernière malade, est alitée, a reçu la visite d'un homme déguisé en Père Noël. L'homme lui a donné une poupée, puis il a soulevé une lame du plancher de la chambre de l'enfant. Lors de l'enquête, intrigué, Maigret va interroger la petite fille, Colette, dont il apprend qu'elle est en réalité la nièce de Lorraine et de Jean Martin, ce dernier actuellement éloigné de Paris par son métier. Depuis 3 ans, Colette vit sous leur toit. Son père, Paul Martin, ayant sombré dans l'alcoolisme après la mort de sa femme dont il est moralement responsable. De plus, Maigret est intrigué par le comportement de Lorraine qui, sous prétexte d'achat à effectuer, s'absente une bonne partie de la matinée. Désireux d'éclaircir ce mystère, Maigret dirige l'enquête depuis son appartement, usant largement du téléphone et de ses inspecteurs, Lucas et Torrance. Et puis je finirai avec « Joyeux Noël » d'Alexandre Jardin, dont une lectrice a dit que l'histoire est celle de la famille « Disker d'Apple », surnommée aussi le « clan des impensables ». Mais lorsque je parle d'histoire, je devrais plutôt dire des histoires, car dans cette famille-là, celles-ci sont on ne peut plus nombreuses et qui plus est pas toujours bonnes à raconter, même au sein de sa propre famille. C'est pour cela qu'un beau matin de janvier 2004, la vie de tout un chacun bascula dans cette famille, car Norma, l'héroïne de ce roman, mais aussi l'arrière-petite-fille du clan Disker d'Apple, révéla certaines vérités pas toujours bonnes à dire et encore moins à entendre. Je vous rappelle le titre de ce livre, Joyeux Noël d'Alexandre Jardin, également enregistré pour vous et disponible au SQLA. Et c'est ce qui met un terme à cette émission de Noël, hein, spéciale Noël. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents. Je voudrais remercier les nombreux invités hein, qui ont fait cette émission, dont l'historien Jean-Claude Germain et également Christelle Quintin et mes camarades de Canalem, dont Mathieu Tessier qui est en régie toujours de l'autre côté de cette vitrine. C'était Clotilde Say qui vous souhaite de très joyeuses fêtes.